affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer en littérature étrangère en compagnie de Michel Zinc. Surprise, l'homme nous entraîne là où on ne l'attendait pas, loin des sentiers de la France médiévale qu'il connaît si bien et qui nous a fait parcourir comme un guide enchanteur. Son dernier essai propose un parcours libre à travers d'autres langues, l'anglais, l'allemand et l'italien. Il partage des lectures en version originale qu'il a aimées. Certes, Michel Zinc est membre de l'Académie française et secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais ici, il revendique son incompétence. Sa faiblesse devient une force pour s'étonner d'un mot, d'un détail, d'un personnage, d'une obsession d'auteur. On lit mieux dans une langue qu'on sait mal, c'est le titre de cet ouvrage paru aux éditions des belles-lettres. Bonjour Michel Zinc.
Bonjour.
Alors, dans cet essai, nous découvrons que vous êtes un grand amateur de littérature étrangère. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous attire vers ces livres. Peut-être que comme vous avez fait des auteurs français, des œuvres médiévales, votre métier, il y avait là quelque chose de neuf, d'exotique.
Non, mais c'était une démarche à la fois narcissique et paresseuse. Narcissique parce que je suis revenu, comme on fait quand on est vieux, sur le cours des années passées. Et je me suis aperçu que j'avais passé mon temps à lire dans des langues qui ne sont pas la mienne et des langues, en fait, que je sais mal. Donc, pourquoi m'imposer cette torture? Alors, c'était pas une torture, c'était délicieux. Et c'était par paresse et de toutes les façons. Pourquoi ai-je lu depuis ma jeunesse, comme ça, dans ces langues, les rares langues dans lesquelles je peux lire un petit peu? Eh bien, c'est parce que j'étais trop paresseux pour les apprendre systématiquement. L'allemand est la seule langue que j'ai apprise au lycée. Bêtement, à l'époque, je savais du latin, du grec et de l'allemand. Je le savais assez bien, mais enfin, je voulais l'entretenir et puis j'avais plaisir à lire en allemand. L'anglais, je ne l'ai pas appris en classe. À 20 ans, je me suis retrouvé comme un imbécile à ne pas savoir un mot d'anglais. J'ai essayé d'apprendre l'anglais, enfin, j'ai appris un peu l'anglais tout seul avec Assimil, la méthode facile. À l'époque, c'était des 10, c'était des petits 33 tours. Bon. Et c'était très ennuyeux. Alors, je me suis dit que c'était aussi simple de commencer à lire un livre facile, et puis comme ça, de proche en proche. J'ai commencé par Agatha Christie, je ne parle pas dans ce livre, ou à peine. Et puis après, je suis passé à autre chose. Et l'italien, je suis bien obligé professionnellement de pouvoir lire dans les langues romanes, à cause du continuum des littératures en langue romane au Moyen-Âge. Donc, je lisais professionnellement en italien, en espagnol. Et le portugais, c'est plus difficile. Bon, je me suis même risqué. Mais, l'italien, j'ai fait du progrès, j'allais beaucoup en Italie, je pouvais lire en italien. Et du coup, au lieu d'apprendre ces langues pour vraiment les savoir, j'ai passé ma vie à lire des romans en me donnant bonne conscience et en me disant je me cultive, ou quand c'est un roman policier ou un roman idiot, mais au moins ça me fait faire de la langue. Et puis, j'ai pas fait beaucoup de progrès parce que comme ça, mes progrès en vocabulaire sont vraiment aléatoires. En grammaire, ça reste fragile, j'apprends sur le tas. Pour la pratique orale de la langue, c'est absolument nul. Comme ça, j'ai passé ma vie à lire de l'anglais aux États-Unis où j'allais pendant 40 ans, j'y suis allé tous les ans, et j'étais toujours aussi nul quand il s'agissait de parler. Donc, je n'ai pas à me vanter de ce que j'ai fait, mais comme je suis narcissique, je me suis quand même rappelé dans ce livre, de façon un peu fantaisiste, ces différentes lectures.
Nous allons commencer par un livre dont vous dites qu'il vous a accompagné toute votre vie, un livre qu'aimait votre mère, et c'est l'histoire de la famille Buddenbrook. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Pourquoi vous accompagne-t-il de cette façon?
Alors, vous l'avez dit, c'est les Buddenbrook. Alors, on dit les Buddenbrook en français, et le titre allemand est Buddenbrooks, parce qu'en allemand, on ajoute le S, que normalement ne sert pas pour le pluriel, pour les noms de famille. Bon. J'ai lu les Buddenbrook parce que j'ai grandi dans une famille de germanistes. Mon père est alsacien, comme mon nom l'indique, et professeur d'allemand. Ma mère était germaniste aussi de formation. Ils aimaient beaucoup Thomas Mann. Les Buddenbrook s'imposaient parce que c'est un livre qui a eu un succès prodigieux, à tel point que quand Thomas Mann a eu le prix Nobel, il l'a eu non pas pour l'ensemble de son œuvre, mais pour les Buddenbrook, ce qui était un tout petit peu désobligeant pour le reste. Les Buddenbrook, c'est un roman de jeunesse, il a écrit ça, il avait moins de 30 ans. Et donc ma mère les citait beaucoup. J'ai lu les Buddenbrook en allemand très tôt, dès que j'ai été capable de lire en allemand. C'est un roman magnifique et on s'attache extraordinairement au personnage et à l'histoire de cette famille. Le sous-titre, c'est Buddenbrook, Verfall einer Familie. Les Buddenbrook, déclin d'une famille. Et cette famille, le déclin, mais déclin à peine, c'est d'autant plus déchirant, cette famille patricienne de Lübeck. Et je l'ai lu et relu. C'est un livre que j'ai lu plusieurs fois dans ma vie, que j'ai lu à haute voix à mes enfants quand ils apprenaient l'allemand. Peut-être pas tout entier, mais jusqu'au second mariage de Tony avec Permanet d'Arménie. Bon. Et c'est un roman qui, avec les petites choses de la vie, d'une certaine façon, montre ce que la vie est de déchirant. Il y a des drames, mais il n'y a pas que les drames, il y a tout le reste. Et comment un deuil immobilier, devoir vendre la maison de famille, est aussi douloureux que la perte d'un être cher, et d'autant plus douloureux qu'on n'a pas le droit de pleurer. On peut pleurer un être cher, mais être malheureux à en mourir parce qu'on a perdu une maison qu'on aimait, eh bien, on ne se sent pas le droit de le dire, et pourtant, on le vit. Et c'est ce qu'on cite au moment où ils vendent la vieille maison de la Mönchstrasse, la pauvre Toni, qui est sotte, n'est-ce pas, mais qui porte l'esprit de la famille, dit Thomas, elle s'adresse à son frère Thomas, das Landschaftszimmer, Thomas, la pièce au paysage, qui était ce salon du XVIIIe siècle, avec des paysages peints au mur, ou du papier peint, paysage, on ne sait pas trop comment c'était. Enfin bref, il faudrait que je raconte les bouts d'endroits, et j'essaye de montrer que le déclin n'est pas une catastrophe qui arrive, mais est la conséquence de l'ascension de la famille. Au fur et à mesure des générations, les Buddenbrook successifs s'affinent. Ils ne sont plus des négociants gros, sans trop de scrupules, comme le grand-père, ni un peu des pharisiens charmants, mais qui font quand même leurs affaires, comme le père sous la monarchie de Juillet, qui considère, ces protestants, que Dieu bénit la fortune, puis on est riche, mieux c'est. La génération d'après, il est trop subtil pour n'être pas scrupuleux, et à ce moment-là, la machine s'enraye, ça ne peut plus être aussi bien. Et il est plus admiré, il arrive au sommet, il est sénateur de Lübeck, etc. Mais en même temps, il est plus scrupuleux, il fait de moins bonnes affaires. Il a une épouse trop raffinée pour l'aider dans ses affaires, comme faisait celle des générations précédentes. Il a un fils qui meurt enfant ou adolescent, mais dont on voit que c'est un pur poète, inapte à la vie, évidemment, inapte aux affaires. Et c'est fini. Donc, c'est la perfection qui engendre le déclin, ou le déclin est dans la perfection. C'est montré de façon admirable. Nani aussi, j'ai pas relu tout ce dont je parle, mais là, en consacrant des pages au Buddenbrook, bon, j'ai repris le livre, puis j'ai repris le passage où la pauvre Tony, justement, est acculée au mariage avec l'infâme Grünlich. Et c'était tellement triste que j'ai pas pu continuer.
Alors, on peut perdre une maison, on peut perdre aussi une région ou un pays. Mmh. Et cette idée de la perte est présente dans plusieurs livres dont vous parlez, et notamment chez Kaeserling. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cet auteur vous parle ?
Oui, alors nous restons dans le domaine allemand. Kaeserling, ce n'est pas le philosophe ou l'économiste qui est plus connu en France, c'est son cousin. Edward von Kaeserling, Edward Comte Kaeserling. Et il est peu lu en France, certes, quelques livres, deux, trois sont traduits, je crois, et si je sais même. Et c'était un aristocrate des Pays-Baltes, de Courland, de Livonie, notamment, et qui est né dans un château là-bas, et qui a passé sa vie à Munich, qui a écrit à Munich, qui est mort à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, et qui peint ses romans, se déroulent tous dans cette Courlande qu'il a quittée volontairement. Ou au moins, on est assez mal renseigné sur sa vie, mais enfin, il ne semble pas qu'il y ait eu un drame tel qu'il ne pouvait pas y revenir. Ses frères, ses cousins étaient dans leur château là-bas. Et donc, il n'est jamais revenu. Et ses romans ne parlent que de ce pays, ses paysages et ses grandes forêts sablonneuses, ses châteaux, ce monde menacé. Alors, nous savons bien qu'il est menacé parce que après il y a eu la révolution russe et puis le nazisme et puis bon et que bon et mais lui il ne le savait pas. Mais tout de même, il sentait la fragilité de ce monde. Et ce sont des romans extrêmement prenants, extrêmement subtils, où il n'y a pas de catastrophe, mais ça se termine tristement, et avec une fêlure. Par exemple, schéma classique, un jeune comte charmant, un peu faible de caractère, sa jolie jeune femme, très aristocratique, très distinguée, la fille des fermiers, ou du régisseur plutôt, c'est un peu plus haut, qui fait une carrière de cantatrice, qui revient superbe, adulée, célèbre, etc. Le jeune comte cède à son charme, n'est-ce pas ? Et puis, à la fin, il revient à sa femme et l'autre s'en va furieuse. Et dans la nuit, elle montre le poing aux fenêtres éclairées du château. Et donc, tout est rentré dans l'ordre. En un sens, ça finit bien. Le jeune comte lui-même, bon, pas si malheureux que ça. Après, il est soulagé, vraiment, de se retrouver avec son femme. Mais on voit la fêlure dans sa vie, dans le ménage et dans ce monde. Un jour, Marail gagnera la cantatrice.
Il y a d'autres fins qui vous frappent, des fins qui sont heureuses, mais qui finalement sont trop cousues de fil blanc pour être vraiment dans une tonalité totalement euphorique. Je pense à Dickens, où vous dites que ces fins heureuses, finalement, font plaisir au lecteur, mais que la fêlure demeure.
Oui, et alors chez Dickens, c'est explicite, parce que dans un des plus célèbres de ses romans, dans De Grandes Espérances, Great Expectations, mais voyez, moi, j'hésite plus à prononcer l'anglais, je fais le malin avec l'allemand, où mon accent va à peu près, enfin bref. Et dans De Grandes Espérances, il y a d'abord une fin malheureuse, si on veut, et enfin si, malheureuse, et les lecteurs ont protesté de sorte qu'il a réécrit une fin heureuse où on laisse Phil épousera tout de même la jeune fille. Bon. Mais j'ai pris comme exemple un roman de Dickens que j'aime beaucoup, qui est Martin Chuzzlewit. Et dans Martin Chuzzlewit, il y a une sorte de un personnage extrêmement noir qui est une sorte de Tartuffe. Un faux dévot, escroc, criminel même. Et il devrait gagner. Il est confondu à la fin parce que une conversation est surprise par hasard par le vieux monsieur qu'il essaye de détourner, ou dont il essaye de détourner la fortune pour qu'elle échappe à l'héritier légitime et vertueux. Ah bon. Et donc, ça se termine bien, mais tellement par hasard, on voit bien que l'enchaînement des faits allait vers une fin malheureuse. Et c'est comme dans Tartuffe, cette histoire d'Exan qui arrive au dernier moment et du roi qui a repéré que Tartuffe et que Orgon est vertueux, que Tartuffe est méchant, ça ne tient pas debout. Bon. Eh bien, c'est le même principe. Et alors, ça me touche beaucoup parce que donc je lis pour mon plaisir. Alors, si c'est quand même trop triste, eh ben, ça m'attriste. Et alors, ça m'attriste encore plus si ça se finit bien, mais que la fin est tellement artificielle. Voilà.
Vous dites quelque part dans ce livre que vous établissez une distinction entre les auteurs qui aiment leurs personnages et ceux qui ne l'aiment pas, et vous ajoutez que les auteurs français, en général, ont une forme de pudeur et ne se résignent pas à aimer leurs personnages.
Oui, alors c'est une remarque qui a l'air naïve et un peu bêta, mais qui n'est pas si fausse. Les romanciers anglais, américains, allemands, au moins pour certains d'entre eux, bon, aiment leurs personnages et ne s'en cachent pas. Et les Français ont souvent la pudeur d'abord de leurs personnages. Alors, celui qui les aime le plus et qui s'en moque le plus, c'est Stendhal. En fait, Stendhal aime, il aime Fabrice, naturellement. Et il s'attache à Julien, quel que soit Julien. Mais s'attache à Lucien. Mais il prend ses distances et il sera obligé d'en sourire. Et chez les autres, c'est pire. Flaubert aime Félicité d'un cœur simple, évidemment. Mais elle est tellement malheureuse qu'il peut bien se permettre de l'aimer. Mais les autres, non. Tout un roman comme Les Ducs. Alors, bon, Madame Bovary, naturellement, mais et encore. Mais tout un roman comme L'Éducation sentimentale sur un personnage comme Frédéric Moreau, qui est un médiocre absolu, qui ne présente aucun intérêt. Et Bouvard et Pécuchet, il n'a même pas pu finir, tellement c'était insupportable. Et je compare, voyez, Proust, qui est le plus grand auteur comique de la littérature française, se moque constamment de ses personnages. Alors, bon, il y a le narrateur, et puis la mère et surtout la grand-mère. Tous les autres sont maltraités et de plus en plus maltraités. À mesure qu'on avance dans la recherche, ils deviennent plus noirs, ou on découvre des aspects noirs de ces personnages. Et à peu près à la même époque, on a eu Virginia Woolf, qu'on peut lui comparer par la subtilité, par la capacité à saisir l'instant, à être attentif au moindre frémissement de la sensibilité du monde extérieur. Eh bien, Virginia Woolf aime ses personnages, et Dieu sait qu'elle peut avoir la dent dure, elle peut être une stop, tout ce qu'on veut, mais Mrs. Dalloway n'est pas particulièrement intelligente, n'est pas particulièrement profonde, mais elle l'aime. Dans la façon dont elle vit sa vie. Puis elle a ses souffrances qui sondent, ses vrais soucis, ses vrais regrets. Hein, et c'est dit comme ça. Dans la promenade au phare, to the lighthouse, là, on peut discuter sur la traduction. Dans la promenade au phare, Monsieur Ramsay est insupportable, de ridicule, d'égocentrisme, tout. Mais on ne peut pas dire qu'elle le déteste. Non. Elle aime Madame Ramsay. Elle, d'une certaine façon, elle les aime tous, même ceux qui ne sont pas entièrement sympathiques. Et le lecteur, enfin, elle les aime. C'est-à-dire que le lecteur, en lisant Virginia Woolf, est saisi d'une sorte d'élan d'affection, de pitié, d'intérêt pour les personnages n'a pas du tout cet élan en lisant Flaubert ou en lisant Proust ou même en lisant Balzac, où il y a des personnages sympathiques, mais qui sont victimes généralement. C'est tout à fait différent. Il y a ce côté, les autres pays diraient ce côté moqueur des Français, ce côté intellectuel, la peur d'être dupe, la peur d'avoir l'air idiot, pèse sur les romanciers français, me semble-t-il. Enfin bon, toute généralisation est stupide, mais enfin, c'est pas entièrement idiot.
Alors, comme lecteur, vous avez aussi des personnages que vous aimez, d'autres qui vous déplaisent. Et vous entretenez une relation assez ambiguë avec l'un d'eux. Je pense à Casaubon.
Ah oui, ah ben elle n'est pas ambiguë. Je déteste Casaubon et je me reconnais dans Casaubon. C'est donc c'est dans Middlemarch de George Eliot. Et en fait, Casaubon est un personnage très... essentiel dans la première partie du roman. Ensuite, il meurt, mais son ombre continue à planer sur le roman parce qu'il a laissé un testament très méchant. Bon. Et Casaubon est un clergyman, il a un living, il vit, donc il est, curé, vicaire, comme on dit en anglais, c'est-à-dire curé, c'est le patron d'une paroisse qui le fait vivre bien, c'est un érudit. Et il séduit uniquement par son érudition, il est vieux, il est laid, il est content de lui, il est sec comme un coup de trique, la jeune Eleanor qui est tellement, qui a tellement l'envie d'apprendre, de savoir, qui admire son intelligence, c'est un fruit sec, Casaubon. Et Casaubon, non seulement laissera un testament méchant pour elle, mais la grande œuvre à laquelle il consacre sa vie est infaisable. L'idée même en est idiote. C'est une accumulation de fiches indéfinies. Il sait au fond de lui-même qu'il ne la terminera pas. Et je me suis reconnu dans Casaubon, parce que Casaubon, c'est un universitaire caricatural, mais comme nous sommes tous. J'ai lu Middlemarch peu de temps après avoir soutenu ma grande thèse, comme on disait à l'époque, et je repensais à cette grande thèse et à mes occupations de l'époque, l'importance que j'attachais à mes travaux universitaires, à mes recherches. Comme je disais, ma grande thèse avait pour titre la prédication en langue romane avant 1300. Vous voyez comme c'est excitant. Et alors avec ça, je trimballais une dizaine d'énormes fichiers de bois que je viens de léguer au Collège de France. Ils ont pris ma cave, plein de fiches, comme ça on verra. Quand je travaillais, je ne suis pas guéri. Hein. C'était au-dessus de mes forces de les jeter. Ça prenait la moitié du coffre de la voiture quand on partait en vacances. Il n'y avait plus de place pour les affaires des enfants. Etc. En vacances, je travaillais du matin au soir. C'était affreux. Et alors, je croyais être seul à m'être reconnu dans Casaubon. Mais un jour, j'étais en voiture, justement. On allait au jury prix Chateaubriand avec Marc Fumaroli. Et il me dit « Oh, je déteste Casaubon, puis alors je me sens visé, je me reconnais dans Casaubon ». C'est venu comme ça dans la conversation, il ne pouvait pas savoir ni si j'avais lu Middlemarch, ni ce que je pensais, comme ça. Tellement c'était quelque chose de fort pour lui. Et il y a eu un très beau livre de Mona Ozouf sur George Eliot, et Mona Ozouf dit qu'elles se sont aussi visées par Casaubon. Donc, c'est pas seulement parce que c'est un homme, etc., mais comme si il y avait cette sorte de culpabilité des universitaires, et que Casaubon touche très juste. Mais enfin, oui, c'est mon... Casaubon est un personnage horrible. Et puis, je vais pas raconter Middlemarch, mais voilà. De toute façon, Middlemarch est un roman très connu, et si certains n'ont pas encore lu Middlemarch, il faut le lire, bien sûr.
Allons rester dans la littérature anglaise et parler de Jane Austen, que vous avez découverte grâce à une amie irlandaise. Et vous dites que vous auriez aimé vivre à cette époque à condition de ne pas être une femme et d'avoir un peu de moyens.
Eh bien voilà. D'ailleurs, alors, il y a... si on souligne sa propre ironie, elle disparaît. C'est comme quand on dit « bon, j'ai beaucoup d'humour ». Mais la restriction que j'introduis à la fin, la double restriction, montre que ce n'est pas tellement une époque enviable, même pas enviable du tout. Mais le charme des romans de Jane Austen, c'est que si on s'arrête un instant pour y réfléchir, effectivement, le sort des femmes est épouvantable. Il faut qu'elles aient une dot pour se marier. C'est terrible. Et l'argent joue un rôle énorme. C'est le plus grand rôle, le rôle moteur. Que fait ? C'est ces gens qui ne peuvent pas travailler. Que faire quand on n'a plus d'argent ? Mais quand on lit le roman, Eh bien, ils sont dans ces maisons, ils prennent le thé dans ces maisons, dans une campagne douce, de grands arbres, de beaux jardins. Ils sont bien élevés. La journée passe. De petites rides, de petits détails prêtent une importance énorme. La façon dont on se salue, s'il accepte ou non la tasse de thé que lui propose la jeune fille, etc. Bon, la vie en dépend. Et c'est ça qui est terrible. Que la vie dépende de cela. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme infini de ces romans, des pages entières, comment aménager un parc, comment aménager une perspective.
Dans ce parcours littéraire, beaucoup de livres finalement parlent de maison, d'enracinement ou d'exil. Mais il y a aussi un auteur, Joseph Conrad, qui nous emmène beaucoup plus loin et qui semble vous avoir fasciné, y compris par son style assez heurté et particulier.
Oui, alors, on reproche toujours... j'admire Conrad, quand on est jeune, on lit, j'avais lu en français avant même de le relire en anglais, Typhon, des choses comme ça, et qu'on fait lire à la jeunesse. Mais il faut le lire un peu plus tard, peut-être, pour bien le comprendre. Alors... Tout le monde dit Conrad écrit très mal. Le style de Conrad est épouvantable. Et je l'ai même trouvé sous la plume d'auteurs ou de critiques français, je ne dirais pas qui pour ne pas être désobligeant, dont je ne... Ils ont peut-être lu, je leur fais peut-être... Ils ont peut-être lu Conrad en anglais, mais je n'en suis pas absolument sûr. Et je ne suis pas absolument sûr qu'ils savent assez bien l'anglais pour voir en quoi le style de Conrad n'est pas bon. Moi, je vois bien des particularités de son style, qu'il y a des phrases longues qui tâtonnent pour trouver la formulation exacte pour faire sentir vraiment ce qu'elles veulent dire, mais je ne peux pas dire que je sache assez bien l'anglais pour voir des choses qui ne vont pas, qui écorchent une oreille anglaise. Mais c'est quelque chose qui existe, parce que on s'est moqué de Conrad en particulier. Il y a une page de Virginia Woolf très méchante sur Conrad. Mais d'abord, oui, vous avez mis le doigt sur le nom, parce que j'ai deux passions, enfin, passions, c'est beaucoup dire, mais, dans ma vie, contradictoires, qui sont les maisons et, d'autre part, la mer. Alors là, je n'ai jamais vécu au bord de la mer, à part faire du dériveur quand j'étais jeune, je n'ai jamais navigué, ça reste comme ça. Bon. Et donc, on quitte les maisons pour la mer. Et j'admire où ce Conrad m'étonne. C'était une famille à la Kaiserling, un petit noble polonais. La Pologne n'est pas un pays particulièrement maritime, il n'était pas au bord de la mer, Kaiserling était beaucoup plus, il n'était pas loin de la Baltique. Et il voulait être marin. Et alors, dans ça, un petit noble polonais, c'était l'Empire austro-hongrois, il pouvait entrer dans la marine austro-hongroise. Non, il voulait être officier de marine marchande et anglais. Et il est allé en France, il s'est amariné à Marseille en naviguant avec les pilotes du port de Marseille, il raconte ça de façon très amusante. Et ensuite, il est allé en Angleterre, il a passé ses examens, et on voit dans ses romans que c'est drôlement important et difficile, les examens pour devenir capitaine de la marine marchande. Et puis, il est devenu capitaine de marine marchande. Il a plus écrit qu'il n'a navigué, je crois. Mais tout de même, cette sorte d'étrange passion et cette volonté, le fait de devenir un écrivain et un écrivain dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. C'est un phénomène qui me fascine d'une certaine façon. Et il y a des années, j'avais organisé un colloque au Collège de France sur ce thème qui s'appelait « D'autres langues que la mienne ». C'était au moment où Emmanuel Carrère venait de publier « D'autres vies que la mienne », d'où le titre. Et des écrivains qui, soit par force, parce qu'ils sont exilés, soit par choix, écrivent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Et c'est ce que fait Conrad, et ce rêve, cette sorte, qui est vraiment un rêve enfantin, pas être polonais, être anglais, pas être au milieu des forêts de Pologne, mais être sur la mer, capitaine, et puis capitaine de la marine marchande, courir le monde comme ça, en rapportant du thé des Indes ou de naviguer en mer de Chine. Et c'est quelque chose de fascinant. Et Conrad est un auteur très étrange quand on le j'ai pas lu de près, mais simplement quand on en lit beaucoup et qu'on y prend garde. Alors il y a l'aspect qui est évidemment celui qui retient le plus l'attention maintenant, de la dénonciation à la fois du racisme et du colonialisme dans Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness, mais et c'est quelque chose évidemment d'essentiel, mais il n'y a pas que cela, il y a mille autres aspects, et en particulier une réflexion sur le courage. Il fallait du courage pour partir, enfin, il a manifesté du courage, mais le fait qu'on ne peut pas savoir, pour le courage physique en somme, on ne peut pas savoir si on en a ou non tant qu'on ne l'a pas éprouvé. Et ça, c'est comme Casaubon, c'est quelque chose qui me poursuit, parce que je dis que je crois que je n'ai pas de courage, mais je ne peux pas le savoir. Je n'ai jamais été à même de le vérifier vraiment. Je crois que je n'ai pas de courage parce que j'hésitais à sauter du grand plongeoir quand j'étais petit, et que une scène de violence me paralyse, de sorte que, par exemple, si quelqu'un était agressé ou harcelé dans le métro, je ne suis pas du tout sûr que j'aurais le courage d'intervenir. Mais je n'ai jamais vérifié, et ça me tourmente. Et donc, je lis Conrad avec un intérêt particulier de ce point de vue. Outre que ce sont des romans qu'on lit avec beaucoup d'intérêt, un intérêt romanesque.
Et pour finir, est-ce que vous voudriez nous laisser un conseil de lecture dans l'une de ces langues, anglais, allemand ou italien, parmi vos dernières découvertes
ou redécouvertes ? Dernière découverte, alors quelque chose que j'ai lu récemment en allemand, et alors il y a une traduction française, je ne sais pas si elle est encore disponible, puis c'est une édition un peu particulière, ce sont les souvenirs d'Edith Stein. Donc Edith Stein, née dans une famille juive de Breslau, donc à l'époque la Silésie était prussienne, hein, donc allemande, et convertie philosophe, elle va à Göttingen, elle devient l'assistante de Husserl, c'est pas rien. Elle se convertit au catholicisme, bizarrement, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui sont versés au protestantisme, elle se fait religieuse, elle va jusqu'au bout, se fait carmélite. On l'envoie au banc du nazisme dans un couvent en Hollande. En 40, les Allemands arrivent. Tout le couvent est arrêté et déporté. Elle arrive dans un camp de transit où était Hiltzum, la vie, avec son étoile jaune et sa sœur, qui s'est convertie aussi et qui était dans le même couvent. Toutes les deux avec l'étoile jaune cousue sur leur robe, leur habit carmélite. Et puis, elles sont parties à Auschwitz dans le même combat, dans le même convoi. Et en montant dans le convoi, Edith Stein dit à sa sœur, « Viens, Rosa, nous allons rejoindre notre peuple. » Et formule ambiguë, est-ce qu'elle regrettait, je n'ose pas le penser, mais enfin, est-ce qu'elle, tout de même, elle se reprochait, non pas d'être catholique et carmélite, mais de n'être pas avec les autres, et de ne pas souffrir avec les autres, comme Simone Veil, d'une certaine façon. Et alors, elle a écrit un énorme livre, je l'ai lu, j'avais chargé ça sur ma liseuse, sans que je me disais, qu'est-ce que tu lis lentement en allemand ? Et quand j'ai eu fini, j'ai trouvé ça si beau que j'ai acheté en français pour ma femme qui ne lit pas assez bien l'allemand, et je suis aperçu qu'il y a 600 pages, donc je pouvais y avoir passé du temps. Et elle raconte, ça s'appelle Souvenir, enfin ça a été traduit sous le titre Vie d'une famille juive, mais le titre allemand est Aus dem Leben einer jüdischen Familie, scène de la vie d'une famille juive, et elle reprend le titre d'une nouvelle de Eichendorff, qui était le grand poète romantique catholique, qui était de Breslau, lui aussi. Et elle décrit, mais par le menu, elle se souvient de tout, comme elle a une intelligence anormale, Edith Stein. Et elle se souvient de tout, et alors qu'elle est déjà religieuse, alors qu'elle écrit au début du nazisme, pour montrer, le livre ne sera pas publié, on le retrouvera après la guerre, le manuscrit, pour montrer que les Juifs sont de bons Allemands. sont des Allemands et de bons Allemands. Et elle montre très bien, d'ailleurs. Et elle entend tous les détails, les cousins, ses frères et sœurs, et sa scolarité et tout. Et c'est bouleversant, c'est magnifique. Enfin, je regrette que ce ne soit pas plus facilement disponible en français. Et bon, en italien, le premier livre dont je parle est le chef-d'œuvre absolu, mais connu, qui est La conscience de Zeno, d'Italo Svevo, qui est ce livre sur la psychanalyse, ce livre psychanalytique qui rit de la psychanalyse, et qui est une merveille absolue d'esprit, d'humour et de tristesse. Et en anglais, pas une nouvelle. Vous voyez, bon, je n'ai parlé pratiquement que d'auteurs très connus, puis de romans policiers, etc. Mais je parle longuement du premier roman de George Eliot, qui n'est pas le plus lu, qui est Adam Bede. Et c'est un roman qui pourrait être un roman à l'eau de rose ou un roman noir à l'eau de rose, et qui est beaucoup plus que ça. Là aussi, c'est une femme extrêmement intelligente, George Eliot, et extrêmement généreuse. C'est de tous ces auteurs, c'est celle que j'aurais le mieux aimé connaître. Et Adam Bede, qui n'a l'air de rien, est un roman d'une très grande profondeur et une grande séduction.
Eh bien, un grand merci Michel Zinc. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage, On lit mieux dans une langue qu'on sait mal, et c'est aux éditions des Belles Lettres. Merci pour tous ces conseils de lecture. Nous avons une longue liste devant nous et à bientôt.
Merci.
Merci.